Vous écoutez un podcast de la Société psychanalytique de Paris. Trace clinique des traumas dans les cures vous est présentée par Eva Veil. Eva Veil est psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Elle est l'auteur de nombreux articles et notamment d'un rapport au Congrès des psychanalystes en langue française en 2020, intitulé « Lieu du traumatique, le génocide, le nouage collectif individuel ». À partir de son séminaire « Traces des traumatismes dans les cures » qui s'est tenu pendant 15 ans à la SPP, elle vous propose une illustration clinique tirée de la littérature de Isaac Bashevis Singer et son roman « Ennemi, une histoire d'amour » avec au centre le personnage de Hermann Broder. Pour aller plus loin, nous vous renvoyons à la bibliographie sélective des leçons de psychanalyse. Nous écoutons Eva Veil.
Traces cliniques des traumas collectifs dans les cures. Dans mon séminaire qui a porté sur la clinique des traces des traumatismes collectifs dans les cures, séminaire qui s'est tenu à la Société de psychanalyse de Paris pendant 15 ans, un certain nombre de manifestations nous ont paru se répéter dans nos discussions cliniques. Les cures des patients survivants ou descendants de survivants du génocide laissaient souvent apparaître l'emprise sur la réalité psychique du traumatisme, des deuils et des impasses de l'histoire familiale issues des branches généalogiques amputées. Ces impasses ont souvent contribué à entraver la construction de leur identité et de leur subjectivité. Le génocide de la Shoah risque alors de prendre le statut d'un événement originel, effaçant l'histoire antérieure, tant familiale que collective. Souvenirs et fantasmes individuels arrimés au désastre collectif se jouent sur un double registre qui ne met pas seulement en scène refoulement, retour du refoulé pulsionnel et remémoration individuelle, mais aussi d'autres mécanismes inconscients comme les clivages du moi et des troubles dans l'ordre de la pensée. Dans les cures analytiques s'impose alors un retissage de sens en lien avec les trous noirs des traumatismes narcissiques liés à la persécution et au génocide. Pour des raisons de confidentialité, je présenterai comme patient un personnage de roman. Hermann Broder, héros du roman « Ennemies, une histoire d'amour », paru en 1975 en français chez Stock, est un des personnages masculins les plus proches du cœur de Singer et m'a paru condenser le vécu des conflits internes évocateurs de l'histoire, avec un grand H, et de son histoire inextricablement nouée. Il m'a paru, ainsi que d'autres personnages de Singer, particulièrement incarner ces formations ou déformations cliniques évoquées tout au long du séminaire cité plus haut. Hermann Broder a survécu à la Shoah en Pologne grâce à Jadwiga, jeune servante chrétienne de sa maison familiale qu'il a cachée pendant 2 ans dans le grenier à foin de la maison de ses propres parents, à l'insu de ceux-ci et risquant ainsi sa vie et la leur. Elle est tombée amoureuse de Broder et après la guerre, après un passage dans un camp de personnes déplacées en Allemagne, Broder l'a épousée civilement et émigré avec elle à New York. Le couple vit dans un petit appartement de Brooklyn, quartier juif, où personne ne sait que Jadwiga n'est pas juive. Cette jeune femme est illettrée et vit à travers Hermann, qui représente pour elle la seule forme de richesse culturelle qu'elle ait connue. Selon un schéma qui se répétera dans les romans de Singer, l'homme juif personnifie culture et savoir. Jadwiga souhaite se convertir au judaïsme pour avoir un enfant de son mari et suit scrupuleusement les lois religieuses qu'elle a vues pratiquer dans la maison des parents de Hermann, alors que lui-même les a reniées. Celui-ci, comme nombre de personnages de Singer, se trouve constamment entraîné dans des aventures amoureuses, où la volonté ne joue aucun rôle et où le désir se présente comme une énigme insensée. De ce fait, le mensonge constitue un partenaire absolument obligé de ce dispositif. Simultanément à sa vie conjugale avec Jadwiga, Broder poursuit une liaison avec Masha, survivante des camps d'extermination, arrivée à New York avec sa mère, également rescapée, et qu'elle a retrouvée par hasard à la fin de la guerre en Pologne. Masha est serveuse dans une cafétéria, et bien qu'elle soit mariée de son côté à un autre homme, elle souhaite qu'Hermann l'épouse et ait un enfant avec elle. Masha connaît l'existence de Jadwiga, qu'elle considère comme une servante indigne d'Hermann. Dès l'apparition de celui-ci dans l'appartement de Masha et de sa mère, il est gavé de nourriture traditionnelle par les deux femmes qui se querellent inlassablement en formulant répétitivement des vœux de mort l'une à l'égard de l'autre et envers elles-mêmes. Pour gagner sa vie, Broder travaille pour un rabbin américain sans culture dont il écrit les discours, tout en faisant croire à Jadwiga qu'il vend des livres en voyageant, ce qui lui permet de retrouver Macha. Broder, qui avait déjà abandonné le domicile conjugal avant la guerre, a appris quelque temps après son arrivée en Amérique que sa femme Tamara et leurs deux enfants avaient été assassinés par les nazis. Un jour, par hasard, en lisant un journal yiddish, il découvre qu'il est prié de contacter un numéro de téléphone et il apprend alors que Tamara, sa première femme, avec qui il est toujours marié, a survécu, qu'elle est vivante, qu'elle est à New York et qu'elle l'attend. Quand il la retrouve, après un voyage en métro plein d'hallucinations, elle lui raconte la série de hasards qui l'ont fait survivre. Après l'assassinat de leurs deux enfants devant ses yeux, elle fut fusillée et laissée pour morte. Se relevant d'entre les cadavres, avec la balle toujours logée dans son corps, elle trouva un refuge chez les paysans. Sa blessure guérie, elle réussit à passer en URSS en 1941. Où donc a-t-elle été durant toutes ces années, se demande Broder après coup, et nous avec lui. Singer écrit « Au fond de son âme, Hermann demeura ce qu'il avait toujours été, un hédoniste, un fataliste, dénué de toute illusion sur lui-même ainsi que sur l'humanité, et dont la vie s'était toujours jouée sur les frontières ténébreuses du suicide. Les religions mentaient, la philosophie avait fait fiasco sitôt. Dans les fours de Schwitz, les Juifs brûleraient jusqu'à la consommation des siècles. » Fin de citation. Dans ce même texte, Macha dit à sa mère, toujours vêtue de noir pour perpétuer le deuil de sa famille assassinée, « Les nazis m'ont forcé à faire des choses pendant si longtemps que je ne peux plus rien faire de ma propre initiative. Si je veux faire quelque chose, il faut que j'imagine qu'un nazi est à côté de moi, avec une arme. » Macha, comme Hermann Broder, à l'instar de certains patients que nous rencontrons, porteurs de troubles de pensée et de trous noirs, ne peut construire de représentations donnant sens à des conduites qu'il se retrouve contraint d'agir. Les effets traumatiques des destructions subies par ses rescapés se condensent dans ses agirs, emportés dans la vie d'après. Les conduites erratiques de Broder se conjuguent dans un tissage énigmatique mais fondamental, noué aux événements traumatiques de la catastrophe collective qu'il a effracté en même temps que des millions d'autres. Le lien avec sa vie d'avant, où il était déjà la proie de désirs non reconnus, agis, de conduites amoureuses antagonistes avec sa volonté, subsiste dans des actings répétitivement transgressifs. Paradoxalement, il faut remarquer que Broder n'a été soumis directement ni aux exterminations et tortures extrêmes, ni interné dans un camp. Ce sont ses enfants, sa femme légitime, ses parents, ses frères et sœurs qui ont été exterminés sans trace. Lui-même a été protégé et sauvé par une femme qui a pris un soin extrême et des risques énormes pour le nourrir, le cacher et le garder en vie. Il va néanmoins l'abandonner, comme il a abandonné Tamara, la mère de ses enfants, et enfin Macha, qui se suicidera. Dans un scénario désespéré, Broder renoue brièvement une relation amoureuse avec Tamara, épouse secrètement Macha, devenant ainsi trigame, et conçoit un enfant avec Jadwiga avant de disparaître. Tamara inscrira son nom dans les colonnes des personnes disparues, publiées dans la presse yiddish, mais sans résultat. Elle pensait qu'il se cachait quelque part dans une version américaine de son grenier à foin polonais, peut-être avec une autre femme. Un jour, le rabbin informa Tamara qu'en raison de la Shoah, le rabbinat avait allégé les restrictions rituelles afin que les femmes délaissées puissent se remarier. Tamara répondit « Peut-être dans l'autre monde, avec Broder. » Les récits de Singer nous ont semblé permettre, par leur mode de narration singulier, une possible reconstitution du fond commun. Dans les espaces et lieux où ces récits se situent, ils peuvent, nous semble-t-il, faciliter le traitement de la destruction des identités collectives en tant qu'enveloppe interstitielle socialisée de l'individu. Singer nous conte des généalogies fictives, mais plausibles, Est-ce à partir de reprises talentueuses des broderies entrelacées sur les trous de la disparition des individus, des cellules familiales et des groupes d'appartenance. Cette narration, qui utilise principalement les affects, déplie des trames de vie collective qui existaient dans les communautés des Juifs assassinés et dans les différents groupes de la Mitteleuropa d'avant le génocide. Ceux-ci nous sont contés à travers les histoires des individus et de leur déviance. Dans notre clinique, une interrogation centrale a souvent été apportée par nos patients enfants de survivants. Mon père, ma mère, sont-ils comme ça à cause de la Shoah et de ce qu'ils ont vécu? Ou bien est-ce leur caractère propre et leur histoire personnelle, antérieure à l'histoire avec un grand H, qu'ils nous font vivre? Les conséquences psychiques du statut de la culpabilité et des contraintes inconscientes qu'elle impose pourraient se trouver modifiées selon les orientations imprimées à ces interrogations. Singer a quitté la Pologne pour l'Amérique en 1935. Il n'a jamais écrit directement sur ce qui s'est passé en Europe durant l'occupation nazie et n'a connu les ghettos, les camps et l'extermination qu'à travers les récits des rescapés rencontrés en Amérique. Son œuvre intègre les histoires des survivants immigrés qu'il y a rencontrés. Il construit une passerelle entre l'avant et l'après du fait même de la narrativité qu'il offre à tous, certes, mais plus particulièrement aux descendants, souvent privés d'images et de représentations sur le monde ayant précédé la destruction. Cette considération, qui est courante à propos de la littérature, est d'autant plus précieuse ici du fait de la destruction radicale des communautés et des cadres constitutifs de la vie d'avant. La fonction documentaire de la littérature qui est convoquée nous transmet aussi un savoir de ces événements avant et post-Seconde Guerre mondiale. Singer nous a ainsi semblé s'apparenter à un témoin de témoins, comme le psychanalyste peut l'être dans la cure, lui à qui il n'est pas nécessaire d'avoir traversé les mêmes vécus que le patient. Le thérapeute, comme Singer, peut ne pas avoir connu les expériences singulières en question, mais elles peuvent lui devenir connues, reconnues, par le partage des éprouvés, la mobilisation des affects, la reconnaissance de leurs effets, incluant les réactions contre-transférentielles. Il m'a semblé aussi que transmettre ce que l'on n'a pas connu directement met au travail des mouvements de représentation, de déformation, d'identification, de contre-identification et de reconstruction complexes. Ce travail de l'analyste qui, dans les cures, le confronte à l'inconnu, l'inattendu, l'inapproprié et à toutes les figures de l'aléatoire en quête de sens lui imposera probablement une fonction de transmission de savoir à sa communauté professionnelle. Renversement à leur contraire, répétition mortifère, déni de la mort, clivage du moi, tous ces ingrédients de notre clinique psychanalytique auprès des patients survivants ou enfants de survivants se retrouvent répétitivement chez les personnages d'Isaac Bashevis Singer. Dans une combinaison d'événements catastrophiques, de nouages traumatiques inextricables de son histoire et de l'histoire des traumas collectifs, Hermann Broder, comme de nombreux survivants ou descendants de survivants, condense les effets de l'avant et de la pré-catastrophe dans un palimpseste du désastre. Il faut ajouter que le prix Nobel de littérature, décerné à Singer en 1978, a élargi son œuvre à l'universel.